VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du vendredi 22 juin 2018, en direct de Washington. Idrissa Sedoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Washington interdit d'entrée aux États-Unis pour corruption de hauts responsables de la République démocratique du Congo.
Washington demande aussi une enquête crédible et transparente sur le rôle de militaires maliens dans l'affaire des fosses communes découvertes dans le centre du Mali.
En République centrafricaine, la MINUSCA est débordée et les menaces contre ses casques bleus s'accroissent, avertit l'émissaire spécial de l'ONU dans ce pays.
Au Sénégal, les étudiants de l'Université de Saint-Louis mettent fin à leur grève déclenchée après qu'un gendarme a tué par balle leur condisciple Fallou Sen.
Ici à Washington, le président Donald Trump a demandé la réunification des familles de migrants sans papier séparées à la frontière avec le Mexique.
Et ne manquez pas notre journal de la Coupe du Monde. Pour l'instant, l'actualité en Afrique et dans le reste du monde.
En République démocratique du Congo, poursuite à Kinshasa du débat sur le projet de loi relatif au statut d'ancien président élu, examiné en session extraordinaire par le Parlement congolais. Que contient ce projet? Élément de réponse avec John Lyndon, notre envoyé spécial à Kinshasa.
Dans les rues de Kinshasa, tout le monde y va de son commentaire sur le contenu de ce projet de loi. Selon les sources proches de l'Assemblée nationale interrogées par VOA Afrique, les anciens présidents élus pourront garder leurs avantages financiers, y compris leur salaire. Leur patrimoine, de même que celui des membres de leur famille, devront être protégés. Le gouvernement congolais est aussi tenu de prendre en charge les anciens présidents élus. Leurs familles devront par ailleurs bénéficier d'une protection. Mais s'il y a un point qui captive le débat ici, c'est bien celui de l'immunité dont pourraient bénéficier les anciens présidents élus. Sur ce point, nos sources à l'Assemblée nationale indiquent que le projet de loi sur le statut des anciens présidents contient effectivement des dispositions qui pourraient éventuellement offrir cette immunité. Certains parlementaires souhaitent par ailleurs étendre ce projet de loi aux leaders politiques de haut rang. Pour l'heure, rien n'est dit si cette disposition sera prise en compte. John Lyndon, Kinshasa, VOA Afrique.
Ici à Washington, le département d'État américain a interdit d'entrer aux États-Unis plusieurs hauts responsables de la RDC en raison de leur implication dans des cas de corruption visant à entraver le processus électoral. Son communiqué ne précise ni le nombre, ni l'identité, ni la fonction des hauts responsables concernés.
La porte-parole de la diplomatie américaine, Heather Nauert, a averti que le gouvernement américain est déterminé à combattre la corruption, à soutenir des élections crédibles qui aboutissent à la première passation de pouvoir pacifique et démocratique de l'histoire de la RDC et à tenir pour responsables les personnes impliquées dans des faits de corruption ou de violation des droits de l'homme.
Heather Nauert a appelé à des élections crédibles, transparentes et organisées dans les délais en décembre 2018, à l'occasion desquelles les Congolais puissent être libres d'exprimer leurs opinions sans peur de subir la violence ou l'intimidation.
Heather Nauert a d'autre part exprimé de sérieuses préoccupations au sujet du rôle de militaires maliens dans la mort de 25 personnes dont les corps ont été retrouvés dans des fosses communes cette semaine dans le centre du Mali. Ce rôle a été reconnu par le ministre de la Défense, Tiena Koulibaly. Les États-Unis, a dit Madame Nauert, appuient la décision de Monsieur Koulibaly d'ouvrir immédiatement une enquête.
Washington demande que cette enquête et celle portant sur d'autres graves accusations de violation des droits de l'homme soient menée de manière crédible et transparente et espère que les auteurs répondent de leurs actes. Eisenhower a également souligné que les États-Unis restent très préoccupés face à la détérioration de la situation sécuritaire au Mali et au Sahel.
La mission des casques bleus de l'ONU en Centrafrique est débordée et les menaces contre le personnel de maintien de la paix continuent de s'accroître, a affirmé jeudi au Conseil de sécurité l'émissaire onusien pour ce pays. Pour Parfait Onanga Anyanga, le personnel de la MINUSCA, militaires, policiers et civils, constitue des cibles pour les groupes armés et les gangs criminels, aussi bien dans la capitale qu'à l'intérieur du pays.
Au Sénégal, les étudiants de l'université Gaston Berger de Saint-Louis ont décidé décidé hier de mettre fin à partir du 25 juin à la grève qu'ils observent depuis la mort d'un dealer, Faloussen, tué par balle le 15 mai lors d'affrontements avec la gendarmerie. Avant eux, la Coordination nationale des étudiants du Sénégal avait levé son mot d'ordre de grève suite à une audience avec le président Macky Sall le 28 mai dernier. De Dakar, notre correspondant Sidina Abagay fait le point.
La décision est tombée après une assemblée générale qui aura duré plus de 5 tours d'horloge. À l'amphithéâtre de l'université Gaston Berger, les délégués de la coordination des étudiants de Saint-Louis ont fait face à des centaines d'étudiants avant de se résoudre à suspendre la grève initiée au lendemain de la mort de leur camarade Faloussen. Les étudiants n'ont finalement pas eu gain de cause malgré plusieurs semaines à mettre la pression sur l'État. Les revendications axées sur deux points n'ont pas été satisfaites. En effet, ils demandaient justice pour leurs camarades tués tout en exigeant le départ des ministres impliqués dans cette affaire. Si d'un côté l'enquête suit son cours d'après le ministre de la Justice, de l'autre, les autorités en question sont toujours en poste. Face à la pression de leur base, mais aussi des parents et d'une partie de l'opinion publique, les étudiants de Saint-Louis rejoignent les classes tout en promettant de ne pas laisser la mort de leur camarade Faloussen impuni. À Dakar, Seydina Abagay pour VOA Afrique.
En Gambie, le chef de la police a démissionné hier, 3 jours après la mort de 3 manifestants anti-pollution tués par une unité spéciale de la police. Des détails avec Jean-Roger Bion.
David Koujabi, porte-parole de la police, a annoncé que Lending Kinte, inspecteur général de la police, a présenté sa démission et qu'elle a été acceptée par le président Adama Barrow. Lundi matin, des policiers gambiens avaient fait irruption dans le village de Faraba Banta, à 50 km de Banjul. Ses habitants protestent depuis des semaines contre l'extraction de sable servant à la construction qui, selon eux, pollue les rizières de la région au bord du fleuve Gambie. Les policiers avaient tiré à balles réelles, tuant 2 manifestants et un 3e a succombé à ses blessures. Le président Barrow avait condamné les violences policières et promis que justice serait faite et que de tels incidents ne se reproduiraient plus. D'ailleurs, le président gambien se rendra aujourd'hui à Faraba Banta pour participer à la prière et rencontrer le comité villageois de défense de l'environnement.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici à Washington, le président Donald Trump a demandé aux agences fédérales de réunifier les familles de migrants séparées par les autorités après qu'elles ont traversé illégalement la frontière avec le Mexique. Et la première dame, Melania Trump, a visité hier dans le Texas un camp de détention d'enfants migrants. Plus de 2000 enfants ont été séparés de leurs parents sans papier depuis avril. Le président Trump a mis fin par décret à cette pratique suite à l'indignation suscitée ici et ailleurs dans le monde. Entre-temps, la Chambre des représentants a rejeté une proposition de réforme de l'immigration et remis à la semaine prochaine un vote sur une autre proposition, ses leaders républicains ayant du mal à réunir assez de voix à cause de dissensions internes.
L'Égypte défend un règlement juste et global du conflit israélo-palestinien. C'est ce qu'a déclaré hier le président Abdel Fattah al-Sissi aux émissaires du président américain qui effectue une tournée discrète au Moyen-Orient. Le point avec Bagassi Koura.
Jared Kushner, conseiller gendre de M. Trump, et l'émissaire spécial Jason Greenblatt ont été reçus hier au Caire par le président Abdel Fattah al-Sissi. Selon la présidence égyptienne, M. Sissi a défendu la solution à 2 États sur les frontières de 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale de la Palestine. Les émissaires américains sont arrivés mardi en Jordanie où ils ont rencontré le roi Abdallah II. Ils se sont rendus ensuite à Riyad pour discuter avec le prince héritier Mohamed Ben Salman. Ils doivent aller en Israël et au Qatar. Avant leur arrivée dans la région, l'autorité palestinienne a affirmé dans un communiqué que les efforts de paix américains étaient voués à l'échec. Elle a gelé les contacts avec Washington depuis que l'administration Trump a annoncé le 6 décembre la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël. Le 14 mai, les États-Unis ont transféré leur ambassade de Tel Aviv à Jérusalem.
L'Union européenne taxe depuis ce vendredi des dizaines de produits américains, dont le tabac, le bourbon, les jeans ou les motos, en réponse aux droits de douane des États-Unis sur son acier 25% et son aluminium 10%. La liste d'articles établie par la Commission cible dans certains cas des États américains souvent agricoles ayant voté pour Donald Trump en 2016.
Et c'est la fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui et nous continuons avec les sports et bien entendu les dernières nouvelles de la Coupe du Monde. C'est avec Yacouba Ouédraogo.
Yeah. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal du mondial. Gagné pour se donner plus de chances d'atteindre les huitièmes de finale, le Nigeria refait surface aujourd'hui pour sa deuxième sortie dans ce mondial face à l'Islande. L'effet climat s'est invité en conférence de presse d'avant-match. Le sélectionneur de l'Islande pense que jouer sous 30 degrés Celsius est plutôt un avantage pour le Nigeria. Haimir Hallgrimsson.
Nous avons joué dans la chaleur contre l'Argentine. C'était une étape difficile. Il fait un peu plus chaud ici. C'est probablement mieux pour le Nigeria que l'Islande que de jouer dans cette chaleur à cette température. Mais nous penserons à la température pour peaufiner notre stratégie. Tout compte fait, tout le monde doit jouer sous les 30 degrés Celsius, alors nous devrons simplement faire comme tout le monde.
Nigeria-Islande, c'est à 15h temps universel, puis à 18h, Suisse et Serbes croiseront les crampons. Mais bien avant ces deux matchs, on aura droit à un duel américain, Brésil-Costa Rica, à midi temps universel. Touché mercredi à l'entraînement, la star du Brésil Neymar Junior se dit tout de même apte à jouer. Il ne pense qu'à la victoire.
Nous avons de grosses attentes pour le deuxième match contre le Costa Rica. Nous espérons faire mieux que nos débuts et nous voulons gagner. Nous allons à ce match pour gagner et jouer très bien.
Un match que va suivre Sepp Blatter, ex-président déchu de la FIFA, invité spécial du président Vladimir Poutine. L'ancien patron du football mondial se sent bien accepté malgré le scandale de corruption qu'il a éjecté du siège du président de la FIFA. Sepp Blatter.
J'étais invité par la Russie pour venir ici et puis ils m'ont fait un programme. Je suis le programme. Alors je suis arrivé, on a vu le match. Je pars sur Saint-Pétersbourg, je vais voir Brésil-Costa Rica, puis après je rentre. Mon président me mettait dans une voiture, on me transportait à droite, à gauche et là je suis là-dedans. Je rencontre des Sud-Américains, des Africains, de tout. Et puis ils disent « Ah, mais c'est Blatter, c'est émotion pure. » Et voilà, c'est ce qu'est le football et ça me fait beaucoup de plaisir de dire il vit encore, il est encore là. Je me sens un peu suspendu par cette commission d'éthique de la FIFA, mais quand je viens ici, je me sens accepté.
Catastrophe hier pour l'Argentine de Messi après une défaite humiliante. Le quintuple Ballon d'Or et ses coéquipiers ont subi un lourd revers contre la Croatie 3-0. Dans les tribunes, Diego Maradona a assisté impuissant à la défaite surprise de son pays, plombé par une relance gaga de son peu souverain gardien Willy Caballero, immédiatement sanctionné par un but magnifique d'Ante Rebic. À 10 minutes du terme, Luka Modric a douché l'albicéleste d'un autre but splendide de loin à la 80e, avant qu'Ivan Rakitic n'ajoute à l'humiliation dans le temps additionnel à bout portant. Les Croates, déjà vainqueurs 2-0 face au Nigeria, se qualifient ainsi pour les huitièmes de finale. Qualification également pour les Bleus grâce à leur courte victoire, 1-0 contre le Pérou, suffisant pour se propulser en huitièmes de finale, avec à la clé un record pour l'unique buteur de la rencontre. À 19 ans et demi, Kylian Mbappé est devenu le plus jeune buteur français dans un tournoi majeur, Coupe du Monde ou Euro. Mbappé a marqué à la 34e minute après une frappe d'Olivier Giroud déviée par un pied péruvien. Écoutons le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps.
On a fait ce qu'il fallait pour obtenir cette deuxième victoire. On aurait même pu prendre un peu plus de marge sur la première mi-temps où on a eu le plus d'occasions. Et puis en deuxième, on a pu souffrir parce que quand on l'a récupéré, malheureusement, on l'a gardé pas assez, ce qui nous a obligés à défendre beaucoup, mais on l'a fait avec beaucoup de solidarité. On a été plus beau à voir en première mi-temps, on a réussi à faire pas mal d'enchaînements et on a été efficace et solide sur la deuxième mi-temps pour tenir ce résultat jusqu'au bout qui nous offre évidemment cette qualification pour les huitièmes après le deuxième match. Donc c'est une grosse satisfaction.
Bien évidemment, les supporters français ont laissé exploser leur joie dans les rues d'Ekaterinbourg en Russie. Écoutons quelques-uns.
Je pense qu'on peut quand même facilement arriver en demi. Après, il va quand même falloir un peu s'améliorer. Mais je trouve que la défense était quand même moins mauvaise que lors du précédent match. Donc je pense qu'on peut faire des bonnes choses.
Ça a été un très très beau match. Beaucoup mieux que la dernière fois contre l'Australie. Une très belle équipe du Pérou, un très beau public péruvien, une belle atmosphère, une très belle organisation. Écoutez, c'est formidable. Bon, on attend le match contre le Danemark à Moscou mardi prochain avec impatience.
C'était un super match pour la France. On a plutôt bien joué. On a eu beaucoup d'occasions en première mi-temps surtout. On a fait un super match. et on espère aller le plus loin possible et gagner la Coupe à Moscou.
Avant ce match, France-Pérou, toujours dans le groupe C, le Danemark et l'Australie ont fait match nul 1-1. Christian Eriksen a ouvert le score pour les Danois dès la 7e minute. Le capitaine australien Mikkel Jedinak a égalisé sur pénalty à la 38e. Et match nul qui permet au Danemark de se rapprocher davantage de la qualification en 8e de finale, avec désormais 4 points juste derrière la France. Et c'est ici que s'achève ce journal du Mondial.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Retour sur le cas de Ama Amadou, le chef de file de l'opposition nigérienne qui vient d'être déchu de son statut de député national par arrêt de la Cour constitutionnelle rendu en début de semaine. Cette nouvelle décision de justice concernant l'ancien président du Parlement remet sur la table la question de sa candidature aux élections présidentielles prévues en 2021. Notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa, a recueilli quelques réactions résumées dans ce reportage.
Au niveau du parti de M. Ama Amadou, c'est sans surprise que ce arrêt de la Cour constitutionnelle est accueilli. Bana Ibrahim, un des responsables de la jeunesse du moderne FA Lumana.
Amadou n'a jamais siégé à l'Assemblée puisqu'il était à l'extérieur quand il a été élu. Il n'a profité d'aucune immunité politique liée à son statut de député. Il n'a bénéficié d'aucun émolument en tant que député. Mais puisqu'on veut continuer à le harceler, on va jusqu'à faire une parodie pour pouvoir demander à la Cour, la même Cour qui a rendu un arrêt en 2017, dans laquelle la Cour elle-même a reconnu, lorsqu'il était question d'apprécier le code électoral, que la condamnation par contumace ne peut être regardée comme une condamnation définitive. Donc l'un dans l'autre, ça ne nous surprend pas. Nous sommes dans un pays où nous avons fini depuis longtemps d'intégrer dans notre conscience et dans notre discours qu'il n'y a pas de justice au Niger.
Malgré toutes ces décisions de justice, Ama Amadou persiste et signe qu'il se présentera aux élections à venir au mois de mai dernier à l'anniversaire du parti. Il a réaffirmé cela à ses militants depuis la France où il vit en exil.
Je l'affirme et le réaffirme avec force. Vous m'avez désigné comme votre candidat de 2021. Je serai par la grâce de Dieu candidat. Personne sur terre ne saurait l'empêcher ou il sera lui-même empêché. Que rien ne vous inquiète et ne vous perturbe. Par conséquent.
Pourtant, selon les spécialistes du droit, même sans ce arrêt de la Cour constitutionnelle, une candidature du chef de file de l'opposition à la présidentielle de 2021 est déjà compromise par sa condamnation dans l'affaire du trafic de bébés. Amadou Boubacar Hassan, juriste constitutionnaliste.
Ce qu'il faut retenir, même si aujourd'hui la Cour n'a pas constaté la déchéance de sa qualité de membre de député, à partir du moment où la condamnation est devenue définitive suite à l'arrêt de la Cour de cassation, conformément à l'article 8 du Code électoral. M. Ama Amadou ne peut pas être inscrit sur la liste électorale, a fortiori être éligible. Donc, de ce point de vue, pour les élections à venir, M. Ama Amadou ne peut pas être éligible. Puis, avec ce arrêt de la Cour constitutionnelle, M. Ama Amadou est déchu de son mandat parlementaire. Il n'est plus député et par conséquent, il ne peut plus avoir tous les droits qui sont attachés à la qualité de député, que ce soit l'immunité et tout ce qui s'ensuit.
Abdulrazak Idrissa, Niamey, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
En Côte d'Ivoire, 48 heures après les inondations qui ont fait 20 morts et d'importants dégâts matériels, le président Alassane Ouattara a rendu visite hier aux sinistrés, des sinistrés toujours en état de choc, nous dit Georges Ibrahim Tunkara, correspondant de VOA Afrique à Abidjan.
Rentré précipitamment mercredi nuit de Paris où il se trouvait, le président ivoirien était ce jeudi sur le terrain pour apporter son réconfort aux victimes des inondations de ce début de semaine. À la Riviera Alaba, l'un des quartiers durement frappés par les averses qui se sont abattues sur Abidjan, les populations ont du mal à réaliser ce qui leur est arrivé dans la nuit de lundi à mardi. Diallo Mariam, la quarantaine révolue, dit avoir tout perdu.
On a tout perdu en fait. On n'a plus rien. 24 ans de vie, il n'y a plus rien. En une nuit, tout est fini. On était sous le manguier. De 3h à 7h du matin. On a tout perdu, il n'y a plus rien.
Qu'est-ce que vous attendez concrètement de l'État, du président qui est venu vous voir?
Qui nous aide à voir qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas que ça se répète. Déjà ça, parce qu'il y a ma voisine qui est décédée, qui a été emportée par l'eau. et voir ce qu'il peut faire pour nous, parce qu'il y a les enfants, on a tout perdu. On ne sait même pas qu'est-ce qu'il faut faire.
Hippolyte Kwame est fonctionnaire, assis devant le peu d'objets qu'il a pu extraire des eaux. Il se demande de quoi demain sera fait. Il dit attendre de l'État que des mesures vigoureuses et durables soient prises pour que pareil désastre ne se reproduise plus.
Aujourd'hui, psychologiquement, nous sommes très affectés. Et moi particulièrement, j'ai pratiquement tout perdu. J'ai pratiquement tout perdu, mes parents, ils ont tout perdu. Et aujourd'hui, nous sommes complètement abattus. Abattus et très découragés parce que là, il faut reconstruire encore. C'est ce qui nous... En fait, c'est cette crainte-là.
Et qu'est-ce que vous attendez concrètement de l'État ?
Moi, personnellement, comme je le disais à tous les jeunes ici, je leur disais que concrètement, ce que j'attends, c'est qu'il y ait en fait de nouvelles voies de canalisation qui soient ouvertes et qui ne soient pas orientées vers notre cité. Si, au niveau de l'État, ils peuvent essayer d'ouvrir de nouvelles canalisations qui seront orientées ailleurs, ce serait en fait l'idéal pour nous.
Le gouvernement a annoncé une aide de 2 milliards pour les victimes de ces inondations. De nombreux Ivoiriens sont également mobilisés pour apporter de l'aide aux sinistrés. Il s'agit surtout de vivres, de vêtements, de bouteilles d'eau minérale et de médicaments. Georges Ibrahim Tounkara, VOA Afrique, Abidjan.
Restez branchés sur VOA Afrique à Abidjan sur 99.0 FM en Côte d'Ivoire.
En Guinée, les personnes handicapées physiques subissent l'absence d'une loi qui les protège. Elles sont victimes de plusieurs formes de discrimination, exposées aux railleries, préjugés et stéréotypes. Si ces personnes sont compétentes, elles ont très peu de chances d'être recrutées, nous dit notre correspondant à Conakry. Malgré toutes ces difficultés, souligne Zakaria Camara, certains handicapés s'en sortent.
Dans les rues de la capitale ou encore devant les mosquées, de nombreuses personnes à mobilité réduite investissent des espaces pour y mener une activité de mendicité. Elles se disent victimes de discrimination et ne comprennent pas pourquoi aucune loi spécifique ne les protège. Omar a perdu l'usage de ses membres inférieurs, même s'il ne manque pas de volonté de travailler. Se déplacer reste un calvaire pour lui.
Chacun de nous sont logés très loin. Le matin, quitter là-bas, de se rendre au service, tout à fait problème. Il y a plein d'embouteillages. Et puis, il y a d'autres aussi qui refusent de prendre nos amis handicapés, de les rendre là où ils vont, quoi. Nous avons énormément de problèmes.
Vivre avec un handicap physique à Guinée, c'est souffrir le martyr, dénoncent tous. Ces personnes ne sont pas parmi les priorités des recruteurs, en dépit de leurs compétences. Omar est membre d'une association pour la protection des handicapés. C'est dans un conteneur installé en face des bureaux de la mairie de Matoto que différents métiers sont exercés. Devant sa machine à coudre, Makamara n'entend pas se retrouver à la rue. Je fais la couture pour éviter de faire la mendicité. Je préfère vivre de mon métier. Nous faisons beaucoup de choses ici, comme le tricotage. Face au vide juridique, certaines personnes handicapées tentent du mieux qu'elles peuvent de sortir d'une situation de précarité. Ibrahima Diané est le président d'Action pour le futur des personnes handicapées en Guinée. Selon lui, on peut réussir même avec un handicap physique.
En Afrique, plus particulièrement en Guinée, une fois qu'on est handicapé, donc on est foutu, on n'a pas de droit, on n'a aucune considération. Partout où vous passez, vous verrez les personnes handicapées voir la rue pour faire que la mendicité. Les retombées des handicapés, là, qu'est-ce qu'on fait? C'est ce qu'on récolte pour pouvoir louer les personnes valides. Donc nous, on est venus devenir maintenant des instruments pour les valides. Mais nous, on s'est dit, non, l'handicap n'est pas synonyme de la mendicité. Un handicap n'est pas une fatalité. On peut être handicapé, être utile pour soi, être utile pour ta famille, être utile pour ta nation.
Plusieurs dizaines de personnes à mobilité réduite, membres de l'association, font la couture, le tricotage, la cordonnerie. D'autres font la percussion. Tafsir Fofana est le directeur de la troupe des ambassadeurs des personnes handicapées. Nous n'avons pas d'espace pour les répétitions. Vous voyez, les instruments de musique sont gardés dans ces conteneurs qui servent aussi de locaux pour toutes nos activités. Nous avons besoin d'espace. Les membres d'Action pour le futur des personnes handicapées en Guinée se sont retrouvés après la fermeture de leur centre de formation. Certains sont redevenus des mendiants. Tout comme eux, l'ensemble des personnes à mobilité réduite attend l'adoption d'une loi qui devrait corriger une forme d'injustice silencieuse. Conakry, Kalia Camara pour VO Afrique.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM.
En République démocratique du Congo, 26 cas de polio enregistrés ces derniers mois sont, dit-on, des dérivés du vaccin administré à des millions d'enfants. La maladie a pourtant déjà été éradiquée dans le pays. Eddy Isango a joint à Kinshasa le directeur du programme élargi de vaccination, le docteur Guillaume Ngoyi Mwamba.
C'est une situation de mutation des virus, des souches qui sont utilisées dans le vaccin contre la polio, la souche du type 2 utilisée dans le vaccin polio oral qui arrivait au niveau des populations qui ont une insuffisance immunitaire collective peut arriver à se comporter maintenant comme étant des sauvages.
Est-ce qu'il y a un autre facteur qui favorise cela aussi?
Chaque corps ne se comporte pas de la même manière lorsqu'on introduit une substance étrangère. De la même manière, le vaccin, lorsqu'il est introduit dans le corps humain, chacun réagit de sa façon pour convertir en une immunité, en une protection.
Mais là, on parle de dérivation.
Lorsqu'on parle du virus dérivé de la souche vaccinale, c'est-à-dire le virus qui est dans le vaccin, il est là pour protéger, pas pour créer la maladie. Maintenant, dans les conditions précaires telles que nous avons dit, donc des mauvaises protections de la communauté, lorsque la communauté n'est pas vaccinée, lorsque on vient vacciner les populations qui ne sont pas à même de convertir le virus du vaccin en une protection, ce virus peut faire une mutation et se comporter d'une autre manière lorsqu'il arrive au niveau du type digestif de ces enfants-là.
Comment managez-vous cette information de mutation de virus des souches vaccinales avec toutes les appréhensions qu'il y a autour de la vaccination?
Cette mutation se fait dans un environnement de faible immunité collective. C'est-à-dire que à des endroits là où nous n'avons pas pu vacciner un grand nombre d'enfants. On n'arrive pas à vacciner tous les enfants. Comme vous savez, il y a des enfants qui vivent dans des situations géographiques d'accès difficile. Parfois, ils ne sont pas couverts. Il y a des enfants qui ne sont pas vaccinés, tout simplement parce que les parents refusent la vaccination sous le label des sectes religieux. La solution, c'est la vaccination. On doit d'abord vacciner et protéger une masse importante d'enfants pour espérer arrêter ces poliovirus dérivé de la souche vaccinale.
C'était le docteur Guillaume Ngoyi Mwamba, directeur du programme élargi de vaccination à Kinshasa.
Salut les amis, Roger Moutou ici sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h temps universel dans l'émission RM Show. Au menu de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA Afrique. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001 202 205 26 33. C'est au 001 202 205 26 33. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa. Super Mario with my club. Voodoo is working on me. Dance.
like Calapunti. Mama say Makuta energy.
What for me?
Easy with the trigger. Models of us just like they love Jigger. Bartender, come over. Drink for the winners. She came to party.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, John Ellison. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.